Bienvenue sur la page Bible Espoir. Nous sommes heureux de vous y accueillir et nous vous souhaitons une bonne écoute.
Nous allons réfléchir sur un sujet qui sera beaucoup plus axé sur la sanctification. Il y a diverses déclinaison de l'évangile, ce peut être l'évangélisation, alors ça on connaît naturellement, l'édification, et dans l'édification il y a différentes doctrines, différents enseignements, et entre autres la sanctification. Et le modèle, eh bien c'est Jésus, il nous est dit qu'il a été fait pour nous sanctification, d'accord ? C'est dans 1 Corinthiens chapitre 1er verset 30. Alors j'aimerais que nous fassions deux lectures pour introduire notre sujet aujourd'hui. Alors dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 5, et naturellement, eh bien tout cela c'est dans le cadre de ces belles paroles que nous trouvons dans Matthieu et dans Luc, c'est-à-dire le sermon sur la montagne. Alors, Matthieu, chapitre 5, verset 38. Jésus dit à ses disciples, « Vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil et dent pour dent. Mais moi, et il nous le dit encore pour nous aujourd'hui, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. » Alors, d'accord ou pas d'accord, vous verrez par la suite, je vais vous l'expliquer. « Si quelqu'un veut plaider contre toi et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Si quelqu'un te force à faire un mille, fais-en deux avec lui. Donne à celui qui te demande et ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi. » Deuxième lecture dans Romains, chapitre 12, et verset 17. Alors, Romains, chapitre 12, verset 17. « Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. » S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez pas vous-même, bien-aimé, mais laissez agir la colère, car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. C'est Dieu qui parle, c'est pas l'homme, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, tu amasseras des charbons ardents sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. » Voilà. Alors c'est quelque chose qui n'est pas toujours très aisé. On lit les textes, mais quelquefois on ne les comprend pas comme il faut les comprendre. On leur donne une interprétation, dans certains cas, et je vais le voir avec vous, qui quelquefois peut porter à rire, ou porter à caution en disant « mais voilà, qu'est-ce que ça signifie ?» Alors je voudrais quand même vous dire que la mentalité chrétienne n'a rien à voir avec celle du monde. Le monde a une interprétation des textes de la Bible et il en fait ce qu'il veut. Mais nous, il faut bien comprendre de quoi il s'agit. Pourtant, ce sont des choses simples qui nous sont données, mais nous ne les saisissons pas toujours. J'ai intitulé notre réflexion, notre message aujourd'hui, l'huile sur le feu. Et vous allez voir qu'il peut y avoir du feu. Eh oui. Alors on va prendre en considération tout ça. C'est en quelque sorte ce que j'ai lu, un résumé, un condensé très bref de l'esprit du sermon sur la montagne. C'est la chose la plus simple, c'est la chose la plus accessible à tous les hommes, les petits comme les grands, les enfants comme les adultes. Le sermon sur la montagne, mais c'est très simple. Quand on compare avec les commentaires de l'apôtre Paul, c'est encore une autre dimension. Mais là, c'est simple. Et pourtant, c'est parce que c'est simple que c'est difficile. Il faut quand même le dire. Et le serment, l'esprit du sermon sur la montagne, c'est, on pourrait dire, une qualité ou la qualité cardinale d'un chrétien. C'est pas ce que nous faisons. C'est pas ce que les œuvres que nous accomplissons qui sont importantes. C'est la manière dont nous vivons ce que Jésus nous a enseigné, comme lui. On a donné le modèle, la parfaite démonstration. Alors, on revient un petit peu à ça. Tu amasseras des charbons ardents sur sa tête. Il est question, finalement, eh bien, d'une situation conflictuelle, d'un fonctionnement peut-être dysfonctionnel même dans l'Église, dans un couple, ou peut-être eh bien, dans d'autres situations que nous pouvons imaginer. Tu amasseras, c'est-à-dire qu'il y aura la quantité. Tu amasseras, et pour amasser, il faut du temps. Alors il y a naturellement eh bien, celui qui va recevoir. Hein. Et pourquoi il reçoit? Il y a certainement des raisons. Mais vous avez remarqué avec moi, Dieu a dit, c'est à moi qu'il appartient. Tout cela. D'apprécier, et puis peut-être de corriger, parce que ça existe la discipline divine. Eh oui, si vous lisez Hébreux chapitre 11, ou chapitre 12 plutôt, ben vous verrez que ça existe. Mais attention, ça n'enlève en rien la miséricorde et le pardon de Dieu. Il ne faut pas mélanger les genres. Et quelquefois, nous avons été instruits dans nos milieux, on peut le dire, catholique, protestant, évangélique, avec toujours en arrière-plan des pensées de punition et des pensées de jugement. Ça ne nous appartient pas. Et ce n'est pas à nous, finalement, de régler les comptes. D'ailleurs, c'est ce que ça veut dire, tout ça. Et nous avons ajouté, naturellement, à cette lecture dans Romains, eh bien, celle de Matthieu, chapitre 5, où il est dit, mais si quelqu'un t'oblige à faire... Ah oui. Ce n'est pas ma volonté, c'est la volonté de quelqu'un d'autre. Et qui va me diriger, qui va me conduire, qui va m'intimer l'ordre de faire quelquefois ce qui ne me plaît pas. Et qui va me déranger, qui va m'embarrasser. Si quelqu'un t'oblige à faire, alors il est question de trois déclinaisons particulières que je vais vous expliquer. Si quelqu'un t'inflige à faire un mille, alors ça c'est des calculs naturellement de l'Antiquité, un mille avec toi, fais-en deux avec lui. C'est-à-dire que tu le fais, tu vas peut-être souffrir à le faire, mais au moment où le mille sera, quand tu seras arrivé à 999, eh bien, c'est toi qui vas faire la proposition. Tu vas dire, moi, je voudrais en faire un deuxième avec toi. C'est quand même une idée assez saugrenue, assez originale. Alors, si quelqu'un t'oblige à faire un mille, tu en fais deux. Et ça ne s'arrête pas là, figurez-vous. Et si quelqu'un te frappe, qui vient, il a quelque chose contre toi, ou tu lui déplais, ou tu lui as fait peut-être quelque chose qui ne lui a pas plu à lui, et il vient, et il te retourne, finalement, une claque, une gifle, tout simplement sur la joue, et il vient préciser la droite. Alors s'il est gaucher, je ne sais pas comment il va faire, mais toujours est-il, sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. Alors imaginez-vous, c'est assez cocasse, hein, cette histoire. Parce que bon, on dirait... Il y a quelque chose qui ne va pas. Hein. Et on va voir qu'il y a un sens à tout cela. Et un sens qui se résume dans la conclusion que nous allons eh bien, mettre à la fin de notre message. Alors tu lui présentes l'autre. Il va dire, il n'est pas bien. Hein. Il y a quelque chose qui ne va pas. J'ai bien fait de lui donner une claque pour lui remettre un peu les idées en place. Hein. Ça, c'est moi qui l'ajoute. Hein, c'est pas... Donc si quelqu'un te frappe, tu présentes l'autre. Et on va revenir à notre... kilométrage, un mille c'est 1480 mètres, ah, ça fait 1,5 km ça, hein, c'est pas mal, hein, 1,5 km, par plaisir en promenade ça se fait aisément, hein, faites du sport, il paraît que c'est très bon, hein, pour la santé, hein, alors donc, c'est la distance donc de 1480 mètres, et ça signifie, écoutez bien, parcourir la distance qu'on nous force à faire. Vous savez que dans l'Antiquité, je crois que c'était chez les Perse ou d'autres pays de l'Antiquité, où le pouvoir politique ou le pouvoir civil, le pouvoir d'une municipalité, pouvait prendre quelqu'un dans la rue et lui dire, eh bien maintenant tu vas faire ceci et cela. Vous vous souvenez de Simon de Cyrène? Ça c'était l'Empire romain. Et on l'a pris, il revenait des champs, il devait être très fatigué. Et là on l'a saisi, les soldats romains l'ont saisi en disant, maintenant tu vas porter la croix de Jésus de Nazareth. Il ne devait pas être content, hein, parce qu'il était déjà fatigué, probablement. Alors, il va te forcer, donc ça va être quelque chose, ça va être une... On intime l'ordre, et c'est quelque chose d'obligé, tu fais un île. Et tu n'as pas le choix, parce que c'est l'autorité qui te le demande, tout simplement. Et c'est un ordre que nous devons exécuter, bon gré, mal gré, t'es content, c'est pareil. C'est ça, hein, la signification. Parce qu'il est bien dit, si quelqu'un te force à faire, c'est pas toi qui lèves la main en disant, tiens, je voudrais faire une petite promenade avec toi, on va marcher. Hein, comme ça, ça sera sympa, on pourra discuter. Non, non, c'est pas comme ça que ça se passe. Mais que signifie le deuxième mille? Pourquoi Jésus a-t-il parlé d'un mille et qu'il en a parlé d'un deuxième? C'est ça, là, l'intérêt de la chose. Le deuxième mille, c'est aller... Comprenez bien cela, c'est aller au-delà de ce qu'il nous faut faire. Eh oui, on ne vous le demande pas. Vous avez fait finalement votre devoir, entre guillemets, bon gré, mal gré, mais c'est vous qui proposez à ce moment-là. Et ça, c'est l'esprit du sermon sur la montagne, où ce que l'on demande, eh bien vous le faites parce que ça demande un double effort. Vous en avez déjà fait un. Vous vous appelez Simon de Cyrène, vous revenez des champs. Là, vous êtes harassé par le travail. On vous intime l'ordre de faire, eh bien, 1500 mètres. Et aussitôt, vous vous retournez en disant, non, je dois en faire un deuxième. Alors, quelquefois, on pourrait penser que tout cela, c'est comme la gifle. On pourrait penser, mais les... comme c'est dit dans le... Ce sont des pauvres en esprit, les chrétiens. Hein, parce que faut pas être maso quand même, non? C'est ça, pourtant. Hein, c'est comme ça. Et nous voyons, c'est faire plus que le nécessaire. Comprenez ce que ça veut dire? C'est plus que le nécessaire et qu'on fait... Alors, je ne sais pas si je dois utiliser cet adverbe, mais ça va peut-être vous faire bondir. Gracieusement, avec le sourire. Tant qu'à faire, c'est mieux comme ça. Hein. C'est-à-dire volontairement, et on peut dire gracieusement, quand bien même, et là il y a une suite, quand bien même les exigences sont injustes, parfois iniques, révoltants. Et c'est ça la difficulté. Et moi je crois qu'il faut que nous nous imprégnions en tant que chrétiens que tout est accompli pour nous, figurez-vous. C'est ce que Jésus dit à la conclusion à la croix. Hein. Mais que néanmoins, dans notre participation à la vie spirituelle, à nos relations les uns avec les autres, que ce soit un chrétien, que ce soit un responsable de l'Église, que ce soit a priori et a fortiori peut-être même un pasteur, eh bien c'est qu'il faut, il faut faire finalement plus que ce qui nous est demandé. Et non pas rester tranquille en disant « moi je suis, moi je ne veux pas faire, moi c'est comme ça ». Non, non, on n'est pas des fonctionnaires mes frères et sœurs. On n'est pas des fonctionnaires. Parce qu'il y a une leçon à tirer de cela. Il y a un témoignage important à rendre, à commencer par la communauté. Et puis un témoignage aussi à rendre peut-être devant les autorités extérieures. Et puis il y a un témoignage à rendre devant le Seigneur. Plus que ce n'est pas un zèle pour gagner quelque chose. De dire, Seigneur, tu sais, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, tu me dois bien cela. Alors là, c'est complètement faux. Complètement faux. Quand on part avec ce genre d'encouragement venant d'une estrade, moi je dis, il y a quelque chose qui ne va plus. Hein. Ce n'est plus l'évangile, ça. Le sermon sur la montagne, c'est quelque chose de volontaire. C'est quelque chose qui, où on est confronté avec des situations parfois difficiles, iniques. C'est ce que nous voyons dans les béatitudes. Hein. Autant que vous serez persécutés, réjouissez-vous. On n'a pas forcément envie. Hein. Et puis tout le reste, vous pourrez le relire. Hein. Il y a 7 ou 8 béatitudes. Vous pourrez les relire parce qu'elles font partie finalement du texte, mais je n'ai pas le temps. Alors, c'est faire plus que le nécessaire, et on le fait malgré les difficultés, malgré les exigences. On les connaît, les exigences, parce que ça demande de nous. Ça demande quelquefois eh bien, de l'énergie, ça demande de laisser certaines choses pour donner la priorité à cela. On est un peu dérangé dans notre petit confort. Il y a des choses où on préférerait peut-être être dans notre jardin, un bêcher, je ne sais pas quoi. Hein. Ou alors peut-être la plage ou autre chose. On est bien placé ici. Hein. Enfin, en ce moment, c'est un petit peu plus juste parce qu'il ne fait pas chaud. Bon. Situation révoltante où là, on ne va pas faire un lit, on va en faire deux. Et c'est notre décision. Alors, le premier nid correspond au minimum ordinaire qu'on nous impose. On n'a pas le choix, tout simplement. Et le second mille, dénote la volonté pour accomplir l'extraordinaire humiliant. Et celui-ci, tout simplement, eh bien, trahit ou traduit pour témoigner d'un amour de ceux qui ne nous aiment pas. Faire à un ami, si vous aimez ceux qui vous aiment, mais quel mérite en avez-vous? Mais il y a des situations où quelquefois Dieu nous dit, bien écoute, tu vas être confronté avec, je ne vais pas parler d'ennemi, mais je vais parler d'adversaire, quelqu'un qui ne nous aime pas, quelqu'un qui nous en veut, quelqu'un qui quelque part va pas nous... en ce moment c'est difficile de s'embrasser, hein. Peut-être que certains sont bien contents. Mais bon, toujours est-il que, voilà, c'est tout un contexte que je veux souligner avec un petit peu de... Hein, un petit peu, je pince un peu, hein, mais bon. Toujours est-il que c'est justement d'aimer ceux qui ne nous aiment pas. Et on sait qu'ils ne nous aiment pas, naturellement. Et on s'aperçoit que, parfois, ce sont ceux qui nous ont fait du mal. Comment faire? Comment négocier cela? 1 000? 2 000, ben non, hein, moi je ne veux pas marcher avec lui, ça c'est certain, qu'est-ce que je vais lui dire, etc., etc. Parce qu'il y a des gens difficiles, il y a des gens, quelquefois, je dirais peut-être, j'ai changé le mot, il y a peut-être des frères ou des sœurs qui ne sont pas faciles. Bon, c'est leur tempérament, leur caractère. Mais si Dieu les a mis dans l'église, s'il les a appelés, c'est pour que finalement, les deux pierres aiguës que nous sommes, moi je suis une pierre aiguë, lui il est une pierre aiguë, mais il faut que ça se frotte pour devenir un beau caillou bien lisse. Comprenez? C'est pour ça qu'il nous a réunis. Si on était tous des gens formidables, etc., etc., mais on n'est pas aussi formidable que quelquefois on peut se l'imaginer. C'est pour ça que Dieu nous met ensemble. Et c'est pour ça que nous aurons à faire, et à faire jusqu'au bout, avec quelquefois des situations conflictuelles, où l'Église sera parfois à passer des périodes où il y aura du dysfonctionnement. Mais c'est voulu pour que nous fassions non pas 1 000, mais que nous en fassions 2. Tout simplement. Parce que ça peut être des... Alors dans le monde, ça peut être des gens rebelles, ça peut être des gens incrédules, ça peut être des adversaires, j'ose dire peut-être même des ennemis dans certains cas. Moi, je ne suis pas l'ennemi de personne. Mais par contre, je peux être... Moi, je suis peut-être... quelque part pris pour un ennemi dans la tête de certains. Et vous savez, derrière, quand on arrive à cette dimension d'ennemi, il y en a un qui guette. Il y en a un qui est au coin du bois, parce que lui, quand ça frite, et qu'il y a de l'huile sur le feu, il en rajoute. Et quand il peut mettre les uns contre les autres, et surtout les chrétiens, ça c'est dans le monde, c'est pas trop difficile. Mais dans l'Église, c'est une autre affaire. Naturellement. Alors, il en ressort 2 catégories opposées. Et je m'inspire de ce que nous dit le livre des Hébreux, quand il nous parle des œuvres mortes et des œuvres vivantes. Il y a des choses qui sont bonnes et des choses qui sont vivantes. Et il y a parfois, dans la mentalité des enfants de Dieu, des œuvres qu'ils croient vivantes alors qu'elles sont mortes. Dans l'expression de leur foi, dans l'expression de leur religiosité, et toutes sortes de choses, ils disent, mais ça c'est bien. Mais s'ils savaient que derrière, les motivations, tout ce qui peut finalement être, eh bien là, sortir de cela, quelquefois ils n'en sortent pas que du bon. Hein. Et vous savez que nous sommes exhortés à chercher les choses d'en haut, et non pas celles qui sont en bas. Hein. Le Saint-Esprit nous conduira toujours au bien, au juste bien, parce qu'il y a aussi une déclinaison dans le bien. Il y a le bien de la chair, il y a le bien de l'homme, du chrétien, éventuellement charnel, humain, mais il y a le bien de l'esprit. Et ça, c'est finalement une autre dimension. Donc les œuvres vivantes, et c'est derrière ces œuvres vivantes, pour la gloire de Dieu, pour le bien de l'Église, elles sont utiles. Elles sont utiles parce qu'elles construisent et elles ne détruisent pas. Trop de choses sont quelquefois, sans le savoir, sont plutôt, avec une incidence de destruction qu'une incidence de construction. Quoi qu'il en soit, même si nous n'en sommes pas conscients, dans nos relations, bien entendu, les choses d'en haut, les choses d'en bas, et les choses d'en bas, si nous recourons à chercher finalement, humainement parlant, en y mettant le vernis de la religiosité, alors à ce moment-là, elles produisent l'inutile. J'ai parlé d'utile tout à l'heure. Ça ne se voit pas toujours, l'utile. Mais ça produit l'inutile, le toxique, le négatif. Et nous avons un terme qui le décrit bien, c'est dans Jacques, quand il nous parle, et on peut lui donner le nom maintenant, c'est la sagesse. Et la sagesse, ça ne vient pas de nous. La sagesse, il y a une sagesse charnelle, mais il y a une sagesse qui vient de l'esprit. C'est pour ça que j'insiste là-dessus. Et dans le texte d'Hébreu, de Jacques, il est dit ceci, vous allez vous en souvenir. Lequel d'entre vous, il parle à des chrétiens, est sage et intelligent, donc il y a les deux, la sagesse c'est l'application et l'intelligence c'est de pouvoir réfléchir et de faire la part des choses. Alors à ce moment-là, qu'il fasse la démonstration, qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite, puis écoutez, avec la douceur de la sagesse, la douceur. Donc, la colère, l'irritation, le jugement, la condamnation et tout le reste, parce qu'il y en a tout un dictionnaire, la douceur. Et le sermon sur la montagne, c'est la douceur. C'est pas l'emportement, c'est pas l'orgueil, c'est la douceur. Mais si vous avez dans votre cœur, alors c'est toujours là que ça part, de toute façon, c'est là le réservoir, et quelquefois ça déborde. Si vous avez un zèle, alors bien le zèle, c'est bien, il nous est demandé dans la Bible que nous soyons zélés. Mais de quelle nature est ce zèle? Il est parlé d'un zèle amer et un esprit de dispute. C'est terrible, Si quelquefois nous le sentons, nous le ressentons, demandons à Dieu dans la prière personnellement qu'il nous donne, de changer d'état d'esprit. Parce que c'est un poison. C'est de la toxicité à haut niveau. Et de dire, Seigneur, mais on s'en aperçoit quand on est un petit peu amer, quand on est jaloux, des choses comme ça. Mais demandez, parce qu'il nous a dit que sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Et ça, on peut toujours crier après le péché de l'adultère, et puis ceci et cela, du péché grossier, des charnels. Mais ça, on n'y fait pas trop attention. Je suis comme ça, prenez-moi comme ça. Mais Dieu ne nous prend pas comme ça. Alors ne vous glorifiez pas et ne dites pas, mais moi je suis un bon chrétien, parce que si j'ai ça dans mon cœur, il y a quelque chose qui ne va pas. Vous, vous montez et vous montez contre la vérité, parce que c'est le contraire. Et il est ajouté, cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut. On est toujours entre le haut et le bas. Alors on pense qu'elle vient d'en haut, mais elle ne vient pas d'en haut, elle vient vraiment d'en bas. Mais elle est terrestre, elle est charnelle, elle est diabolique, vous ne savez pas, mais elle est inspirée. Et l'inspiration, ce n'est pas la perfection de Dieu. Elle vient du diable. Car là où il y a, car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, ce que nous avons retrouvé tout à l'heure, quelques lignes au-dessus, il y a du désordre. Et une église où il y a du désordre, vous pouvez toujours voir, sans gratter très longtemps, que s'il y a du désordre, il y a des choses qui ne vont pas, c'est qu'il y a ce genre d'état d'esprit dans l'église. Et toutes sortes de mauvaises actions, faut-il que le pasteur le voie. Parce que s'il est aveugle, comment un berger peut-il conduire son troupeau? La sagesse d'en haut, et premièrement, elle est pure. Elle n'a pas d'arrière-pensée. Elle est ensuite pacifique. Qu'est-ce que veut dire pacifique? La paix. Et la paix, il n'y a rien de plus beau que ça. Elle est modérée. Pas d'emballement à droite et à gauche. Des extrêmes ici et des extrêmes ailleurs. Elle est conciliante. Elle sait écouter les autres et faire la part des choses. Elle est pleine de miséricorde. C'est-à-dire qu'elle prend compassion. Et elle a de bons fruits. Elle est exempte de duplicité, d'hypocrisie. Le fruit de la justice se semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. Mes frères et sœurs, vous recherchez la paix ? Eh oui. C'est ça la priorité. Le Seigneur pourra nous dire, mais voilà, tu as gagné tant d'âmes, etc., etc. Mais dans quoi tu les as amenés ? Si c'est pour retrouver ce qu'il y a dans le monde, les disputes et les querelles, ça ne sert à rien. Il faut mieux s'abstenir, hein, tout simplement. Ça, c'est la sagesse selon Dieu. Je vais un peu plus loin. Les bonnes œuvres dont nous parlons, c'est agir ou réagir avec un cœur bienveillant. C'est ce que nous avons lu il y a un instant, hein. Ça peut tout simplement se concrétiser par ce mot bienveillant. Et non selon nos stratégies de calcul réactionnaires et autres positions malveillantes que produit la vengeance, parce qu'il est question de vengeance, hein, dans le but d'une revanche ou d'avoir raison à tout prix, mes frères et sœurs. C'est très difficile. Moi, je vous parle en tant que pasteur à la retraite. J'ai un peu plus de recul maintenant. Mais je me dis que quand on a affaire à quelqu'un qui veut avoir raison à tout prix, on le voit dans le monde, mais quelquefois, on a des convictions, on a des certitudes que l'on s'est fait soi-même. Actuellement, il y a beaucoup de bruit qui court autour du retour de Jésus, etc., etc. Les gens y vont. Ils parlent de ce qu'ils ne savent pas. Ils parlent de ce qu'ils ne connaissent pas. Ils annoncent des choses qu'il ferait bien de vérifier, hein, parce que ça n'a plus rien à voir avec véritablement ce qu'ils croient connaître. D'ailleurs, de toute façon, moi je voudrais vous le rappeler, si vous aviez tendance à vous envoler déjà vers le ciel, eh bien, que personne ne connaît le jour ni l'heure, même pas les anges. Alors, si vous le savez et que vous commencez à le répandre, vous êtes plus qu'un ange, vous êtes un archange. Ça vous fait plaisir ? Attention, hein, méfiez-vous d'elle. Enfin, méfiez-vous des fausses nouvelles, c'est ça d'elle, les fausses nouvelles. Alors, nous avons été éprouvés par, eh bien là, le mille, nous avons été éprouvés par, eh bien, la claque, la joue, on peut dire, hein. Alors à ce moment-là, ça va développer quelque chose en nous. Nous allons apprendre à résister aux tentations de notre nature instinctive, personnelle, pour ne pas contribuer à la croissance de notre ego dans ses intérêts. Vous savez, Dieu nous a appelés à nous donner entièrement, à mourir à nous-mêmes, à porter notre croix. Ça, c'est encore des mots qui sont... À naître de nouveau. Et puis il y en a d'autres, hein, qui ne me viennent pas à l'esprit. Hein. Et je crois que tout cela doit nous apprendre, non pas tant sur les autres, mais sur moi-même. Parce que le Seigneur a mis tout en place. Il a tout accompli à la croix du calvaire pour que nous puissions être sauvés. Et je l'ai dit, je le répète, il a été fait pour nous sanctification. La sainteté, nous l'aurons de l'autre côté. Alors je sais qu'il y a certaines églises, dès qu'il y a un homme qui a fait ceci, cela, etc., il est déjà saint. Moi, je n'ai jamais connu saint Alain. Mais peut-être que ça arrivera. Alors surtout, ne me priez pas parce que je n'entendrai pas. Surtout, rassurez-vous. Et je crois que ça, c'est le grand problème, c'est l'ego, c'est moi-même. On doit mourir à nous-mêmes. L'esprit nous amène à mourir à nous-mêmes, à renoncer à nous-mêmes, à nous charger de notre croix. Et ça, c'est important. Mais ce fameux ego qui dit « moi, toujours en priorité, moi, je passe avant ceci, je passe avant cela, et puis je ne vois pas pourquoi je me priverai après tout. Hein. » Bien sûr, vous avez le droit. Paul le dit. Bien sûr, vous avez le droit à tout. Vous avez la liberté de beaucoup de choses, mais il y a des choses qu'il faut respecter, parce qu'elles touchent les autres aussi. Naturellement, elles impliquent les autres. Hein. Et la grande leçon, c'est le sacrifice de nous-mêmes. Jésus est allé à la croix, il s'est sacrifié lui-même. Et nous, dans notre vie, nous avons le temps de notre vie pour apprendre à nous donner en sacrifice. D'ailleurs, dans Romains chapitre 12, il est dit à un moment donné d'offrir vos corps, ce qui sera un sacrifice d'agréable odeur pour le Seigneur. Vous connaissez le texte, hein, naturellement. Après la marche épuisante, c'est-à-dire tout simplement le premier et le deuxième mille, nous allons parler de la gifle. Ça vous dit quelque chose, la gifle? Alors, quand c'est les enfants, quelquefois, elle se fait en haut ou elle se fait en bas. Mais c'est pas du tout la même planète. Alors, la gifle. On en a reçu certainement dans notre vie. Moi, je n'ai pas à me plaindre parce que j'avais des parents qui étaient formidables et c'est vrai. Hein? Mais quand on entend parler des enfants qui sont dans la souffrance et dans la peine, c'est terrible, hein? C'est terrible, parce que là, il y a quelque part l'idée de violence. Et il est dit, si quelqu'un te frappe sur la joue droite, alors, s'il fait sur la joue gauche, vous demandez bien qu'il le fasse sur la droite. On recommence. Donc, ça ne fait pas deux fois, ça fait trois fois. Bon, enfin, je passe. Sur la joue droite, il nous est demandé de présenter aussi l'autre. Alors, celui qui donne la gifle, il va dire, mais il est complètement malade, celui-là. Parce que c'est vrai que ce n'est pas des choses que l'on fait. À moins qu'il y ait un sous-entendu de vouloir finalement eh bien, mettre de l'huile sur le feu. Mais le feu, c'est pas l'autre qui va l'avoir, c'est votre joue. Vous allez sortir tout rouge. Alors, il y a un côté blanc et un côté rouge. C'est pour ça qu'il faut donner les deux pour qu'ils aient la même couleur. Bon. Vous savez que ça me fait du bien d'être à la retraite. Waouh ! Incroyable ! Myriam aime bien, parce que je lui raconte des histoires, vous ne pouvez pas vous imaginer. Alors, attention, il ne s'agit pas d'une malicieuse provocation qui entraîne finalement derrière eh bien, le pugilat, hein, on se tape dessus tout simplement, qui contribuerait, s'il y avait cet état d'esprit de provocation, à l'escalade de la violence. Et là, on n'en finit pas avec le plat de la main, on arrive au point. Ouais. On en arrive au point, et on tombe dans l'Ancien Testament, la loi du talion. C'est-à-dire œil pour œil et dent pour dent. Ce qui fait que quand ils sont deux à se taper dessus, il y a deux édentés. Et oui. Alors deux édentés, qu'est-ce que j'ai dit ? Œil pour œil. Et deux borgnes. Ouais, deux borgnes. Alors comme ça, vous pouvez y aller, vous présenter tous les deux aux urgences. Ils font ça en série. Ils vous font un prix en plus. Alors, la loi du talion, c'est rendre à ce moment-là, écoutez bien, c'est rendre le mal pour le mal. Quand il y a cette provocation. Rendre le mal pour le mal. Et ce serait pris pour une injure. Hein. Une injure nouvelle. L'autre joue est donc non un principe moral, social et de police, on peut le dire de cette manière, c'est l'explication qu'on peut donner, mais l'attitude exemplaire de la non-violence. Ouais. De la non-violence et le témoignage évangélique qu'un homme violent n'est jamais un fort, mais un faible. Compris ? C'est jamais... Un fort, c'est toujours un faible. Bien qu'il montre ses muscles, il est en train de montrer, là, de faire la démonstration qu'il a des biceps comme Popeye, mais c'est pas ça. Hein. Ça, c'est le sermon sur la montagne. Jésus qui s'est laissé crucifier. Il a souffert des douleurs indicibles, mais il s'est laissé faire, il n'est pas descendu de la croix. Et il n'a pas maudit, finalement, eh bien, ses persécuteurs. Et il fait la preuve qu'il est un homme qui ne peut pas se maîtriser. Il n'a aucune maîtrise de lui-même. Et moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. On l'a lu tout à l'heure. Hein. Ne résistez pas. Vous voulez résister, vous voulez jouer à ce jeu-là. Vous allez voir, toi, chrétien, tu vas voir ce que tu vas voir. Parce que les gens du monde, ils sont quelquefois plus malins que nous. Hein. Dans l'exploitation Eh bien, du mal, du mensonge et de toutes sortes de choses. Citons après le mille affaires, la gifle qu'on vient de recevoir, on va parler du manteau. Alors, le manteau, si quelqu'un veut prendre ta tunique, laisse lui aussi ton manteau. Et nous avons là l'illustration du dépouillement dans l'agression. Mon manteau, il est à moi. Il est là. J'espère qu'il le retrouvera à la sortie. Bon, autrement, vous allez avoir affaire à moi. Hein. Bon. Et cette belle histoire de mille, de gifles, on peut dire que c'est beau, et du manteau, c'est un enseignement qui est plein de noblesse et qui trouve sa récompense et livre son secret dans ce que nous avons lu tout à l'heure, car en agissant ainsi, mes frères et mes sœurs, en agissant ainsi, tu amasses des charbons ardents sur sa tête. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est-à-dire rendre le mal par le bien. Tout à l'heure, c'était le mal pour le mal. Mais là, c'est le contraire. Vous savez, quand on lit la Bible, il y a des petits détails et qui font toute la différence. Et quel enseignement merveilleux Jésus nous donne-t-il avec des choses simples ? Ça, c'est sûr. Rendre le mal par le bien, et que nous disons à ce moment-là, nous n'avons pas de rancune, sans aucun plaisir à se faire tabasser, ou à se faire voler, ou à courir jusqu'à épuisement. Je donne quelques détails. Manteau. Qu'est-ce que c'est que le manteau ? C'est l'emblème du dépouillement dans l'agression, c'est un vol. Et la réponse, c'est la générosité, tout simplement. Voilà, bon, tout simplement. La gifle, c'est la brutalité, la violence. Et la réponse du chrétien, c'est la douceur et la résilience. Le mille, le chemin que nous avons fait, le kilomètre que nous avons fait, c'est la contrainte, t'es obligé, c'est l'injustice et l'épuisement physique et moral. Et là encore, la réponse du chrétien, c'est la non-résistance. Tu veux me faire faire ça ? Ben, je vais le faire, tout simplement. Et là, derrière, il y a une leçon. Et la leçon, nous l'avons dans un personnage qui s'appelle Job. Vous connaissez Job ? Ouais, très bien. C'est bien, au moins, quelqu'un me répond, donc je comprends qu'il y a qu'une personne qui écoute. Job. Il est l'image du manteau, quelque part. Il a tout perdu, on lui a tout volé, ses fils, sa maison, son cheptel, ses serviteurs, etc. Il a été mis à nu. La gifle, c'est l'image de la brutalité, donc de la violence, je l'ai dit tout à l'heure. La violence morale. Écoutez, ses trois amis qui sont venus pour le réconforter, ils l'ont complètement mis à plat. Hein ? Sa femme qui lui dit « Maudit Dieu et meurt !» Ben, elle attendait peut-être l'héritage, enfin bon, ou la réversion de la retraite, enfin bon, peu importe. Le défi de Satan sur la vie de Job, hein. Tous les tourments, ça, c'est la claque, c'est la gifle. Et puis, il y a également un troisième point, c'est le mille, qui est l'image tout simplement de l'écrasement, de l'épuisement contre la mort. Et la conclusion, ben, la conclusion de Job, elle est formidable. Écoutez, quelle leçon nous pouvons en tirer, hein. Il est dit ceci à travers simplement cette parole, elle est claire. Voilà. Il dira, je suis nu du sein, je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. Hein. Bravo Job. En tout cela, Job ne pécha point et n'attribua rien d'injuste. Seigneur, je reçois une claque. On me vole mon manteau. On me fait courir. Hein. Après, je ne sais pas quelle lièvre, mais je ne veux pas incriminer Dieu dans cette affaire. Je veux être dans l'exemple de Jésus. Je veux avoir une attitude qui ressemble à celle de Jésus. Je veux avoir l'esprit de l'Évangile. Est-ce que vous trouvez que c'est facile, ce que je suis en train de vous dire ce matin ? C'est pas simple. Hein ? C'est beaucoup plus difficile qu'on le pense. Sinon, c'est possible que si on se laisse transformer et régénérer par le Saint-Esprit qui est en nous, on n'y arrivera pas tout seul. C'est pas possible. Je termine, si vous voulez bien. Comme j'ai entendu, oui, ça va pas tarder. Il faut bien comprendre les choses, mes frères et sœurs. Attention, cela ne signifie pas quand il est question, tu amasseras des charbons ardents sur sa tête. Comprenez bien le texte. Hein. Tu amasses des charbons ardents sur sa tête de ton adversaire, disons. Hein. Cela ne signifie pas attirer sur l'adversaire un jugement sévère. Ça n'a rien à voir. Et ça serait une faute de notre part en disant, Seigneur, il m'a fait du mal. Maintenant, je vais lui sortir de mon four quelques brandons bien enflammés et je lui posais ça dans sa casquette. Je peux vous dire qu'après, vous pouvez voir chez le coiffeur, il n'a plus rien à faire. Ouais. Un jugement sévère, quelquefois, rarement, dans notre mentalité chrétienne, en disant, Seigneur, hein, je peux te dire que, vas-y, déverse-lui des charbons ardents sur sa tête parce qu'il a besoin d'apprendre. Mais ce n'est pas à nous de lui apprendre. Notre attitude va lui apprendre, si on est correct. Mais c'est le Seigneur qui va lui apprendre. Et quelquefois, on a entendu, Seigneur, eh bien, qu'il soit brûlé, hein, qu'il soit... Ça, c'est les disciples, quand ils vont dans le village des Samaritains, en disant, Seigneur, ils n'ont pas voulu te laisser rentrer. Ils n'ont pas voulu nous laisser rentrer. Alors maintenant, fais descendre le feu du ciel sur leur tête. C'est très chrétien, c'est très fraternel. En plus, c'était des Samaritains. Mais quelquefois, on a cette mentalité. Et c'est pas ça qu'il faut comprendre les choses. Je vais vous dire pourquoi. Quand il est dit, tu amasses des charbons ardents. Et ça, c'est là. Ça va être le secret qui va être livré, finalement, en fin de message. Un jugement sévère devant Dieu, ce n'est pas ça. Mais à l'inverse, c'est l'effet pénétrant d'un amour pour la personne qui nous fait du mal. Ah, là, c'est encore un autre étage. Hein. On est en haut. Donc, d'un amour pour lui, un amour qui se caractérise par trois choses. C'est un amour inattendu, il ne s'y attend pas qu'on fasse le contraire de ce que... Et c'est un amour qui est surprenant, c'est un amour qui est déconcertant, agissant dans sa conscience, et qui produit les douleurs d'une véritable repentance qui éteint ses haines et sa méchanceté. Capito ? Parlez pas italien. Ouais. Voilà. Voilà le but. C'est que quelque part, il y a eu des beaux livres qui ont été écrits. Est-ce que vous vous souvenez de Souviens-toi, Natacha, un livre qui a été écrit il y a des années. Une jeune femme qui avait été dans les camps de concentration et qui, malgré toutes les souffrances indicibles qu'elle a pu subir, quelque temps après a retrouvé ses bourreaux ou son bourreau. Et vous savez ce qui s'est passé ? Elle lui a rendu témoignage de la grâce de Dieu, de son séjour dans le... et toutes les maltraitances. Et lui s'est converti. Vous ne croyez pas que c'est beau, ça ? Vous ne croyez pas que c'est extraordinaire ? Moi, je dirais c'est surnaturel et miraculeux. Parce que si on fait le contraire, on voit lui véritablement des chardons bien, bien rouges, hein, bien blancs. Et bien là, ça ne marchera pas. Mais par contre, c'est surtout le côté inattendu. Parce qu'il s'attend à ce que véritablement, eh bien là, vous rentriez dans la bagarre, dans le conflit, mais vous allez faire le contraire. Vous allez lui prouver, peut-être pas avec des paroles, mais avec des gestes, avec votre comportement, avec cette douceur, avec cette, comment on pourrait dire, débonnérité, où là, véritablement, il va être complètement déconcerté parce que lui, il s'attend à autre chose. Et cela provoque dans les consciences quelque chose qui va véritablement, eh bien là, le confondre dans ses haines et dans sa méchanceté, et il va savoir que être chrétien, c'est appartenir au Seigneur. Et c'est encore un message que Dieu lui envoie à travers ce chrétien qui va avoir ce caractère-là. C'est l'œuvre du Saint-Esprit qui convainc de péché, de justice et de jugement. J'explique encore, parce qu'on n'a pas trop compris aussi ce verset. Le Saint-Esprit nous convainc de péché, c'est-à-dire que nous sommes vraiment des pécheurs. Et que là, il va nous faire montrer que quelque part, ce que nous pensions anodin, que ça ne faisait anodin, et que ça ne faisait de mal à personne, et que c'était nos habitudes, il va prendre conscience que finalement, c'est un péché. Et il vit dans le péché, en faisant du mal. La justice, c'est que Jésus, envoyé par Dieu, est mort à la croix pour que nous puissions nous-mêmes être pardonnés. Et si nous sommes pardonnés, nous devons pardonner aux autres. Et puis, de péché, de justice et de jugement. Parce que notre adversaire qui nous a manipulés comme des marionnettes, eh ben il a été vaincu à la croix du calvaire et qu'il n'a plus rien à faire avec vous et que nous n'avons plus rien à faire avec lui. Il a été vaincu, tout simplement. La conclusion. De l'huile sur le feu. Ça vous est déjà arrivé de mettre du lait dans une casserole et de l'oublier? Ouais. Hein, tous les matins. Oui, oui. Ben, tous les matins, on prend du lait, si on veut. Hein, voilà. Mais ça ne dépend pas à chaque fois, heureusement, parce qu'on a l'œil. Et bien, c'est là aussi qu'il faut avoir l'œil. De l'huile sur le feu, au chardon ardent, ça se rejoint tout ça. Ça se rejoint parce qu'il va y avoir un embrasement. Et cet embrasement, il n'a pas d'autre nom que l'amour. Ouais. L'amour. Et c'est un autre feu qui, là, ne détruit pas, mais qui pacifie. Il apporte la paix, tout simplement. Il y a quelqu'un que vous connaissez, je ne veux pas citer, mais c'est quelqu'un qui a dit cette parole. Vous savez que j'aime bien les citations et les proverbes. Il a dit ceci, « Car on ne gagne rien dans l'affrontement, parce qu'à chaque fois que l'on fait passer nos différences avant nos ressemblances, eh bien on entre tout simplement dans les confrontations, dans la compétition, dans les combats et dans les luttes, dans les conflits. Alors soyons intelligents pour ne pas jeter de l'huile sur le feu, mais plutôt, et je reviens à Romains, quand il est dit cette parole, je la lis seulement. Hein. C'est toujours dans le même texte. Hein. Que l'amour soit sans hypocrisie. Alors là, vous allez voir le détail. Hein. Ayez le mal en horreur. Attachez-vous fortement au bien. Par amour fraternel, soyez plein d'affection les uns pour les autres. Par honneur, usez de prévenance réciproque. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervent d'esprit. Servez le Seigneur. Réjouissez-vous en espérance. Soyez patient dans l'affliction, persévérez dans la prière, pourvoyez aux besoins des saints, exercez l'hospitalité, bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez et ne maudissez pas. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent, ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas à tout ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ceux qui humblent, ne soyez pas sages à vos propres yeux. Que Dieu nous bénisse ce matin. J'espère que je ne vous ai pas affligé, mes frères et sœurs. Non, non, on continuera. D'accord, hein, on y reviendra, hein, tout ça. Hein. Parce que ça, c'est constitutif eh bien, de la paix dans l'Église et de l'ordre dans l'Église, de la vérité dans l'Église. Que Dieu nous bénisse. Seigneur, nous voulons te rendre grâce et te remercier pour ta parole. Nous croyons, Père éternel, qu'elle est merveilleuse, ta parole, dans des mots tout simples, dans des expressions, en effet, tellement à notre portée. Tu nous dis les merveilles de ton ciel, de ton royaume. Et nous te bénissons parce que nous savons que ça pourrait être une parole écrite, écrite par des hommes, mais elle est écrite par des hommes, inspirée par le Saint-Esprit, inspirée par notre Dieu. Et nous voulons croire qu'en effet, Seigneur, tout cela a été fait pour nous. Et merci, Seigneur, de ce que, en effet, tu nous donnes d'avoir, moi je te le demande, s'il te plaît, de mettre en nous l'esprit du sermon sur la montagne. Merci mon Dieu. C'est vrai que nous avons appris beaucoup de choses, que nous avons été confrontés avec beaucoup de choses. Nous avons connu la gifle, nous avons connu le vol, nous avons connu également, en effet, Seigneur, des marches épuisantes forcées par les autres. Mais une chose qui est certaine, c'est que tu veux nous rappeler encore une fois de plus qu'on ne ressort jamais à vide, mais on ressort rempli des sentiments qui sont en Jésus-Christ. Et merci. Bénis, en effet, mes frères et mes sœurs. Accorde-leur ta grâce et permets que ce message soit une source de joie. Merci, mon Sauveur. Amen.
Voilà, gloire à Dieu. Merci au Seigneur pour sa parole. La parole de Dieu ne nous afflige pas, mais au contraire, elle nous corrige, elle nous enseigne, elle nous fortifie. Amen. Je vais demander aux frères de s'approcher pour préparer la Sainte Cène. Demandez à Noah, à Romain, et à Jean-Yves pour préparer le repas du Seigneur. J'aimerais partager ce texte avec vous, tiré de l'apôtre Paul dans les Galates. Ce texte nous dit, frères et sœurs, c'est à la liberté que vous avez été appelés. Seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte pour suivre les désirs de votre nature propre. Au contraire, soyez par amour serviteurs les uns des autres. En effet, toute la loi est accomplie dans cette seule parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, attention, vous finirez par vous détruire les uns les autres. Voici donc ce que je dis. Marchez par l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de votre nature propre. En effet, la nature humaine a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit a des désirs contraires à ceux de la nature humaine. Amen.
Amen.
Comme il est dit dans autre part, il faut qu'il croisse et que je diminue, que le Saint-Esprit prenne toute la place dans notre vie. Et la sanctification se manifestera aussi par le fruit de l'Esprit, et je me permets de vous le rappeler. La Bible nous dit que le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Contre de telles attitudes, il n'y a pas de loi. Ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont crucifié leur nature propre et ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, laissons-nous aussi conduire par l'Esprit. Amen. Que le Seigneur nous aide à mettre sa parole en pratique et laissons-nous conduire par l'Esprit, comme ce texte nous le rappelle. Amen. Je prendrai ce texte avant la Sainte Cène. En effet, Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait par la nature, par la main de l'homme, mais dans une simple copie du véritable. Mais il est entré dans le ciel même afin de se présenter maintenant pour nous devant Dieu. Et ce n'est pas pour s'offrir lui-même plusieurs fois qu'il est entré, comme le grand prêtre qui entrait chaque année dans le sanctuaire pour offrir un autre sang que le sien. Si tel avait été le cas, il aurait dû souffrir plusieurs fois depuis la création du monde. Mais maintenant, à la fin des temps, il s'est révélé une seule fois pour abolir le péché par son sacrifice. Amen.
Amen.
Le sang de Jésus est encore efficace pour effacer nos péchés, pour nous purifier de toute mauvaise chose. Amen. Et je demandais à notre frère Jean-Yves de rendre grâce, et nous pourrons nous lever si nous sommes baptisés, comme cela est enseigné dans la parole de Dieu, pour partager la Sainte Cène.
Oui, merci mon Dieu d'être présent devant toi, Seigneur mon Dieu, ce matin encore, Seigneur mon Dieu, nous pouvons, Seigneur mon Dieu, en faveur de ta présence, Seigneur mon Dieu, élever, Seigneur mon Dieu, nos voix, Seigneur mon Dieu, pour nous donner, Seigneur mon Dieu, ce pain, Seigneur mon Dieu, ce pain qui nous fait du bien, Seigneur mon Dieu, qui nous rend fort, Seigneur mon Dieu, devant l'adversité, Seigneur mon Dieu. Merci pour cela, Seigneur mon Dieu. Merci aussi pour ce vin, Seigneur mon Dieu. C'est vrai qu'il semble qu'il voit ton sang, Seigneur mon Dieu, couler à la croix, Seigneur mon Dieu, et qui nous pardonne de tous nos péchés, Seigneur mon Dieu. Oui, tu nous bénis ce matin, Seigneur mon Dieu, et tu nous gardes ce matin. Merci, mon Dieu, pour tout cela, Seigneur Jésus. Merci. Amen, Seigneur mon Dieu.
Voilà, prenez la liberté de bénir le Seigneur, même un simple merci. Et vous exprimez tout simplement ce qu'il y a dans votre cœur et votre reconnaissance, votre gratitude au Seigneur. C'est lui qui nous donne la vie tous les jours. Il ne faut pas oublier que le Seigneur est toujours providentiel par rapport à nous dans les moindres détails. Alors on peut toujours lui dire merci.
Merci, Père Saint, parce que tu nous donnes un amour incomparable, un amour qui n'a pas de fin, Seigneur. Nous te rendons toute la gloire et tout l'honneur ce matin, Seigneur. Merci, Père, parce que tu vas nous donner à manger, tu nous as donné, tu nous as nourri. Père, nous voulons te dire merci, merci pour tes bienfaits, merci pour ta bienveillance. Que tout l'honneur et la gloire te reviennent dans le beau nom de Jésus. Amen.
Gloire à Dieu, merci Seigneur.
Béni sois-tu, ô Éternel, tu es ma paix, tu es ma joie, ô Dieu puissant, merci pour ta parole, ô Dieu, merci pour le sang versé, c'est vrai ce que tu as fait, parfait, Seigneur Éternel. Ton nom est grand, ton nom est tout puissant, c'est pourquoi je te loue et je t'adore, Père Éternel. Dans le nom de Jésus.
Alléluia, gloire à toi, Seigneur, de tout notre cœur.
Merci Jésus, merci. Merci pour la sanctification, merci pour la grâce, merci pour tous ces dons merveilleux, Seigneur, où tu prends soin de nous, tu nous montres comment agir.
Oui, c'est vrai.
Bien, nous te bénissons au travers de la parole de Dieu qui nous instruit, qui nous fait du bien, cette parole divine. Merci Seigneur de nous enrichir encore ce matin au travers de ce message. Nous te bénissons et nous te louons et en retour, je veux te remercier pour toutes les grâces et les bénédictions que nous avons et que nous recevons ce matin au travers de la parole, au travers de la Sainte Cène, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit béni.
Alléluia, gloire.
Amen.
Merci, Seigneur.
Seigneur, tu es le roi des rois, le Père, le Père, Seigneur. Nous te rendons grâce. Nous disons merci, Seigneur.
Alléluia, gloire à toi, Jésus. Merci pour ta bonté et ta fidélité.
Gloire à toi,
Alléluia, Jésus. Souvenez-vous que le Seigneur crée en vous, en nous, le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Alors, ce qui est intéressant de savoir et de nous rappeler, c'est que si nous lui demandons son bon plaisir, eh bien, c'est ce qu'il va faire. Le vouloir, notre volonté engagée, et le faire, la pratique. Voilà, nous avons la réponse à ce que nous avons entendu ce matin. C'est pas nous, c'est lui. Mais il faut ouvrir la porte, tout simplement. Continuez à bénir le Seigneur, frères et sœurs. Allez-y. Pendant ces instants, c'est si court. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Te bénissons et nous te remercions. Gloire et louange à ton nom merveilleux. Alléluia.
Merci.
Oh, merci. Merci.
Merci
Seigneur Jésus. Alléluia. Amen.
Tu es bon, Seigneur, tu es le plus beau des fils de l'homme, tu es le roi.
Oui, nous te bénissons et nous te rendons grâce.
Alléluia.
Alléluia, nous te bénissons tous ensemble, Seigneur. Nous voulons te dire même par-delà notre timidité, par-delà nos retenues. Eh bien, Seigneur, du fond du cœur, nous voulons célébrer ta présence. Nous voulons te remercier pour ta parole. Merci pour ton Esprit Saint qui nous accompagne à chaque instant de notre vie. Merci de nous avoir donné Jésus à la croix. Et merci d'avoir ressuscité Jésus, parce que nous sommes ressuscités aussi avec lui. Louange et gloire à toi. Merci Seigneur. Amen.